Dans l'Épître aux Romains, nous lisons ceci au chapitre 3 et à partir du verset 10. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et un peu plus loin, au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Genèse chapitre 1er, les versets 26-27, nous enseignent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé sage, il a été créé saint et juste. Et cela est confirmé par le verdict de Dieu lui-même qui affirme « c'était du très bon, c'était bon ». Alors, Adam et Ève ne désiraient et ne faisaient que ce que Dieu voulait. Ils étaient parfaits en toutes choses. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste avec une parole très belle. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. En s'écartant du bien, par leur désobéissance, Adam et Ève se sont précipités dans le péché, perdant ainsi leur intégrité. Le péché. Le péché est une doctrine de la Bible et qui occupe une place importante. C'est aussi une terrible réalité sur laquelle j'aimerais vous entretenir ce matin. Nous avons, dans les dimanches où je suis intervenu, parlé de l'Écriture, de la Bible, parole de Dieu, inspirée par Dieu. Je vous ai parlé de Dieu et je voulais donc maintenant vous parler de l'homme en commençant par cette réalité du péché. Qu'est-ce que le péché? Alors, quand on considère le mot étymologiquement, anomia en grec, on peut trouver, n'est-ce pas, l'homme qui est là, passif ou actif, et qui fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 4, il nous est dit que le péché, c'est la violation de la loi. C'est ne pas penser ou agir en conformité avec la volonté de Dieu. C'est aussi s'opposer, c'est aussi transgresser la loi. Depuis la chute, tous les hommes se trouvent en état de rébellion constante, active même, contre la loi de Dieu. C'est ce qu'affirmait un jour l'apôtre Paul alors qu'il écrivait aux chrétiens de Rome. Il disait, « Ma chair, ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Et de rajouter ce mot, « Elle en est même incapable. » Certains imaginent que le péché ne l'est qu'au moment de l'acte volontaire. Ainsi, nos désirs, nos pensées intérieures mauvais ne deviendraient fates que si nous les réalisons. Mais quand nous lisons l'Écriture, nous découvrons qu'il n'en est rien. Pour l'Écriture, les pensées, les désirs intérieurs mauvais sont péchés, même lorsqu'ils surviennent inconsciemment dans ma vie. Ainsi, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 27-28, on entend Jésus qui affirme « Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, et quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et c'est Jacques qui, quelques années plus tard, soulignait également que chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, ces convoitises qui sont là, au fond de nos cœurs. Et puis, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, en vendre la mort, nous dit donc Jacques. On peut donc poser maintenant une deuxième question. Et quelles sont les conséquences du péché? Le péché est donc une sorte d'illégalité condamnée expressément par Dieu. Il rend l'homme coupable, passible de la colère et du châtiment divin. L'apôtre Paul nous le dit sans détour. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le récit de la transgression de nos premiers parents, d'Adam et Ève, nous le confirme. La transgression a été immédiatement suivie par la mort dans son triple aspect. La mort spirituelle, par laquelle Adam et Ève ont perdu l'intégrité et la communion avec Dieu. La mort physique, à laquelle ils ont été assujettis, mort physique précédée de toutes sortes de maladies et de misères. Mais une troisième mort terrifiante, Adam et Ève sont placés sous le coup de la condamnation éternelle. Il est dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 1er et au verset 9, il est dit pour les hommes, ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Il nous faut comprendre que les maladies, que les misères, les violences, les injustices, la mort qui nous entoure aujourd'hui de toutes parts ne sont pas des événements naturels. Mais tout cela est conséquence du péché de nos premiers parents, du péché d'Adam et Ève. Et que tout cela est le signe de la colère de Dieu qui s'est abattue lorsque nos premiers parents ont désobéi, nos premiers parents ont failli. Signe de la colère et de la sévérité de Dieu qui devrait nous faire réfléchir. Mais ici, il nous faut rappeler que avec la sentence de mort, il y a immédiatement une promesse qui l'accompagne, la promesse d'un divin rédempteur que quelqu'un allait naître de la femme et que ce quelqu'un écraserait la tête du serpent, la tête de l'ennemi amenant la vie pour les hommes. On trouve dans l'Écriture une différence entre péché au singulier et péché au pluriel. Alors, que faut-il entendre par ces deux mots que nous trouvons dans l'Écriture? Tout d'abord, par le premier mot, péché au singulier. On parle parfois avec ce péché au singulier de péché originel, ou bien d'état de corruption. Et l'Écriture nous montre que cet état de corruption héréditaire, c'est l'état dans lequel se trouve tout homme, dans lequel nous nous trouvions nous aussi, avant de recevoir Jésus dans notre vie. Cette terrible réalité est enseignée par exemple au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Au verset 18, il est dit « Par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. » Ou bien encore « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Cette corruption héréditaire, nous la découvrons tout au long des textes de la Bible. Ainsi, à un moment donné, au psaume 51, David affirme « Je suis né dans la faute, je suis né dans le péché. » Cet état de corruption est décrit dans la Bible comme une sorte de péché intérieur qui habite désormais le cœur de tout homme. C'est l'apôtre Paul qui regarde à sa vie et qui dit « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. » Il dit « La loi du péché et qui est dans mes membres. » Un quelque chose de fort, un quelque chose qui est là, une loi qui me maîtrise et qui me domine. Je ne sais pas pour vous, mais je le sais pour moi. Je sais qu'il en est ainsi. Ce n'est pas tout à fait juste d'ailleurs ce que j'ai dit. Je le sais également pour vous. Je crois que pour chacun d'entre nous, il en est ainsi. L'Écriture décrit les effets de cette corruption originelle d'une manière très explicite. Et je voudrais m'arrêter très vite sur deux points. L'Écriture nous montre que l'intelligence et la volonté de l'homme sont corrompues. Pour ce qui est de l'intelligence, l'Écriture montre que l'homme est devenu aveugle spirituellement parlant, que l'homme est par lui-même devenu incapable de connaître et de comprendre les vérités divines, que l'homme peut faire tous les efforts qu'il veut pour se saisir des choses de Dieu ou pour comprendre Dieu, il n'y arrivera jamais par lui-même. Bien au contraire, la Bible nous montre que l'homme est même tellement aveugle et qu'il considère l'Évangile et qu'il considère la croix comme des folies. Et ces ténèbres, et qui sont là dans le cœur de l'homme naturel, ne sont pas dissipées par l'éducation ou la culture. Ce n'est pas parce que je fais de grandes études, de grandes recherches, que les ténèbres qui sont dans mon cœur seront dissipées. Bien au contraire, la Bible nous le dit, et qu'il faut l'action du Saint-Esprit agissant dans mon cœur et dans mon intelligence pour dissiper les ténèbres et pour me permettre de comprendre et de saisir Dieu, de comprendre et de saisir le cadeau qu'il m'offre en la personne de Jésus. Pour ce qui est de la volonté, l'Écriture montre que l'homme naturel s'oppose à Dieu et que s'il laisse sa volonté aller, eh bien, ce sera un ennemi de Dieu. Que l'homme, de lui-même, de par sa nature, ne s'approche pas de Dieu. Bien au contraire, il reste en opposition, en lutte avec le Seigneur. Ainsi, on pourrait dire que la nature pécheresse est la source de tous les péchés, c'est-à-dire que tous ces actes injustes que je vis trouvent leur source, trouvent leur origine en moi-même, dans l'homme lui-même. Alors, après avoir évoqué le péché, cette nature qui est là dans notre existence, que nous dit l'Écriture au sujet des péchés? Alors, quand je regarde les textes de l'Écriture, je découvre que il m'indique qu'est péché tout acte intérieur ou extérieur, contraire à la loi de Dieu, et péché, toute mauvaise pensée qui surgit dans mon cœur, et péché, toute parole injuste que je peux prononcer, et péché, toute mauvaise action que je peux commettre. Chaque fois que j'impose silence à ma conscience, c'est bien parce que là, ma conscience est en train de me dire que j'accomplis un acte coupable. Mais si le péché, c'est faire ce que Dieu interdit, la Bible nous dit aussi que le péché, c'est ne pas faire ce qu'il m'ordonne. Tous les actes que je néglige d'accomplir, tous les actes coupables auxquels je m'adonne par ignorance, même sans propos délibéré, sans volonté délibérée, tout cela, la Bible me dit, c'est le péché, les péchés et qui sont dans ta vie. Il y a toutes sortes de textes, mais si je regarde à ma vie, si je regarde au jour de ma vie, je ne peux que dire et constater que tous ces péchés sont bel et bien là, dans mon existence. Alors, quelles sont les causes des péchés dans ma vie. La cause première, ou la cause véritable, la vraie cause, est bien sûr cette nature corrompue qui est la mienne. C'est encore l'apôtre Paul qui écrit en Romains 7, « Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Et j'admire l'homme grand, extraordinaire, l'évangéliste, l'apôtre, et qui, en toute simplicité, regarde ces hommes, regarde ces femmes de Rome, et leur dit avec clarté et force, « Le péché habite en moi. » Et je voudrais vous poser la question, vous aujourd'hui, en regardant le Seigneur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ce matin? Est-ce que vous êtes comme l'apôtre à dire « Je suis obligé de confesser que le péché habite bien dans ma vie, dans mon cœur et dans mon être. » Qu'il y a dans ma vie une inclination naturelle au mal, une disposition ou des dispositions mauvaises, voire parfois des dispositions perverses qui sont là. Et qu'il y a peut-être aussi dans ma vie toutes sortes de passions, d'émotions que je ne contrôle pas, qui me dominent. Qu'il y a peut-être de la colère, de la jalousie, de l'hypocrisie, voire plein d'autres choses. Oui, tout cela, c'est bien sûr notre cœur foncièrement mauvais. Mais face à cette terrible réalité, le Seigneur nous regarde et nous dit que rien n'excuse les actes mauvais. Inutile de dire « je suis faible », inutile de dire « c'est ma famille, c'est les autres ». Pour Dieu, l'homme, tout homme, toi, moi, nous sommes responsables de tous les péchés, de toutes les fautes qui ont leur origine dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pratiques injustes. Certes, il y a aussi les causes extérieures. Il y a le diable dont la Bible nous parle et qui essaie de nous séduire, de nous amener sur le chemin mauvais. Il y a les âmes et le monde avec les tentations qui sont là. Il y a une multitude de domaines. Mais en tout cela, Dieu te regarde et me regarde en te disant, tu es pécheur, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tu es pécheur et donc condamné. C'est alors que l'Écriture vient avec force pour nous offrir les solutions. Une première solution pour notre vie. Une solution, j'allais dire, de base, une solution première, une porte par laquelle il nous faut absolument passer. Cette solution, c'est Jésus. Ce Jésus dont la Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous. C'est Jésus dont la Bible nous dit qu'il est mort sur la croix comme un agneau qui ôte les péchés du monde. Ce Jésus est qui est là pour offrir à chacun d'entre nous le pardon de nos péchés, pour offrir à quiconque croit et à quiconque prend à pleine main l'œuvre qu'il accomplit à la croix du calvaire, un pardon total. Évoquant cela, Jean disait, en parlant de Jésus, son sang me purifie de tout péché. Dans un instant, nous allons prendre la scène, et la scène est ce signe, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 26, au verset 28, de la rémission des péchés, du pardon des péchés. Et ce signe que quiconque a reçu le Christ a en même temps reçu le pardon de ses péchés. Et dans l'Écriture, il est dit que quand nous venons au Seigneur, que nos péchés peuvent être rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Que quand nous venons au Seigneur, il prend nos péchés, les jette derrière lui, qu'il les efface comme une nuée s'efface dans le ciel. Il nous est dit encore qu'il les prend et les précipite au fond de la mer. La solution est là, dans l'agneau de Dieu et qui meurt à la croix. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous pouvez vous regarder avec vos fautes, avec votre vie. Vous pouvez lutter de toute manière possible. Il n'y a qu'une porte, il n'y a qu'une solution, c'est celle du Christ. La Bible évoque à cet égard la conviction de péché. C'est donc une nécessité pour tout homme, pour toute femme, à un moment donné, de se regarder dans l'Écriture, de se voir dans le miroir de la parole de Dieu et de confesser son état devant le Seigneur. Il ne peut y avoir de vie, il est impossible de passer par la porte qui mène sur le chemin de la vie éternelle, qui mène dans l'éternité avec Dieu, qui nous donne le pardon, sans cette conviction de péché, sans ces mots et qui devraient être les nôtres, soit apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et je voudrais simplement vous poser la question, est-ce que chacun est passé par cette porte, a vécu cette réalité? Mais ensuite, quelle solution pour ceux qui sont devenus chrétiens, pour ceux qui vivent chaque jour ou qui essaient de vivre chaque jour pour le Seigneur? Quelle solution face à ces péchés qui sont là, à cette lutte intérieure qui est dans ma vie, à cette captivité que je découvre parfois, ou même cet esclavage que je découvre dans ma vie? C'est cet esclavage que l'apôtre Paul a découvert à un moment donné dans son existence, et où il regarde à sa vie et il dit « Malheureux, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Vous connaissez la parole de Paul, vous avez peut-être remarqué, il n'a pas dit « Comment est-ce que je peux être délivré du corps de cette mort ? Comment est-ce que je peux être délivré de l'esclavage ? Comment est-ce que je peux être délivré de la captivité, de ce qui me tient, de ce qui me domine ?» Il n'a pas dit « Comment ?» mais il a dit « Qui me délivrera ?» Et dans ce qui, il y voit le Seigneur lui-même. Dans les mots qui suivent, il y a un cri de joie et de louange qui est un « grâce soit rendu à Dieu » parce que Dieu a pourvu à une solution pour que vous et moi, nous devenions vainqueurs. Il a pourvu, en nous donnant Jésus, vainqueur de la mort, et il a pourvu, en nous donnant l'Esprit, en nous donnant l'Esprit dans notre être intérieur. Et immédiatement après ces mots, l'apôtre parle de l'Esprit de vie et qui libère de la loi du péché. Et il nous dit vivre selon l'Esprit, être sous l'emprise de l'Esprit, avoir les tendances de l'Esprit. C'est là la vie et la paix. À toi qui luttes et qui combats pour être dans la victoire, il n'y a pas d'autre solution possible que celle que nous offre le Seigneur. L'œuvre parfaite accomplie par Jésus, un esprit qui est là dans notre vie, un esprit à qui nous laisserons toute la place, un Seigneur avec qui nous entretenons une vie, une relation intime, une vie alimentée de communion avec le Seigneur, d'obéissance avec le Seigneur, alors arrive la vie de victoire face aux péchés qui peuvent être dans notre vie. Amen.